que favori à cette compétition. C'est la
Bonsoir à tous. Il est exactement 19h05 temps universel sur VOA Afrique. On est en direct dans Sporama en compagnie de Lawal Dine Kosoro. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir auditeur de la Voix de l'Amérique. Bonsoir à vous.
Un autre confrère béninois sera avec nous aujourd'hui depuis Cotonou. Albert Ogudeji du service des sports de Radio Bénin. Bonsoir Albert.
Bonsoir Élisée, bonsoir à toutes et bonsoir à tous.
On prend la direction de Casablanca pour retrouver Amine Birouk qui profite du sacre de Raja en Coupe de la CAF. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, il est retourné en Columbus dans l'Ohio. Ahmedine Sy, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Au sommet ce soir, l'Italie sur le toit de l'Europe, l'Argentine dans le ciel brésilien, pendant qu'en Afrique, le Raja de Casablanca remporte la Coupe de la CAF, le tout à 12 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques à Tokyo au Japon. Bienvenue à tous. ...53 ans après, la nationale est sacrée championne d'Europe après une finale pleine de suspense. Un partout après prolongation, Leonardo Bonucci a répondu à Luc Shaw. Tout s'est joué au tir au but. Et si Andrea Belotti et Jorginho ont échoué côté italien, les Anglais ont manqué 3 tentatives par Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka. Alors, Amine, l'Italie décroche le deuxième heureux de son histoire, mais que ce fut dur.
Très dur pour la Squadra Azzurra, beaucoup plus dur pour l'Angleterre qui se voyait au sommet du football européen avec un parcours quasiment à domicile lors de cette compétition disputée dans 11 villes différentes où les Anglais avaient tiré le gros lot puisque les demi-finales et la finale se déroulaient à Wembley. Les Anglais ont mené au score, mais les Italiens ont eu les ressources nécessaires et la capacité d'adaptation et de souffrance pour pouvoir égaliser, tenir le coup pendant les prolongations et surtout retourner la situation pendant les tirs au but, puisqu'on se souvient que l'Italie avait manqué une tentative par Belotti, mais ensuite il y a eu 3 ratés monumentaux des joueurs anglais, le poteau sortant de Rashford et les 2 tentatives loupées de la part de Sancho et de Saka, avec à chaque fois de belles parades du gardien italien Donnarumma lors de cette série de tirs au but. L'Italie, comme en 1968, a souffert pour gagner l'Euro, mais l'Italie revient de nulle part. On se souvient qu'en 2018, elle avait manqué sa qualification pour la Coupe du Monde. Depuis lors, le process de reconstruction a été entamé par Roberto Mancini. Et aujourd'hui, il atteint une étape assez importante, avec peut-être en prévision une 5e étoile de champion du monde au Qatar en 2022.
Albert, Roberto Mancini et ses hommes enchaînent un 34e match sans défaite et se hissent sur le toit de l'Europe. C'est extraordinaire.
J'ai bien envie de dire Forza Italia parce que l'Italie a mis tous les ingrédients. L'Italie est à sa place. Roberto Mancini a bâti un groupe. C'est un collectif sans grande star, avec des vieux grognards comme Chiellini et Bonucci, avec des prometteurs comme Donnarumma et autres jeunes talents dans cette équipe, la Chiesa et autres Bernadeschi, et puis avec des joueurs quand même jeunes mais avec très fort potentiel, Jorginho, Verratti, une vraie colonne vertébrale, une équipe qui finit la compétition invaincue et qui, avec la manière, est montée en puissance, a eu un parcours extraordinaire, a quand même sorti l'Espagne, a battu la Belgique et là s'impose face à l'Angleterre. L'Italie mérite forcément ce titre-là parce que Mancini a mis les ingrédients, Mancini a bâti une vraie Squadra Azzurra et la Squadra Azzurra a marqué quelque part son retour sur la scène continentale et même son retour sur la planète foot. L'Italie qui était absente de la dernière Coupe du Monde, je crois, envoie un signal justement en attendant la prochaine Coupe du Monde dans un peu plus d'un an.
Ahmedine Sy, l'Angleterre ne réalisera pas l'exploit de 1966, gagner une Coupe majeure à domicile.
Oui, Élisée, l'Angleterre n'a pas réalisé l'exploit. Pourtant, les points de Southgate avaient bien entamé cette partie en inscrivant un but dès la deuxième minute, mais les Anglais ont mal géré cette rencontre en ne faisant que défendre. Les Anglais ont été trop timorés dans cette rencontre. Je pense que c'est une défaite du coach Southgate. Il n'y a aucune équivoque là-dessus. Il a eu tout faux dans ce match, chez soi tactique, sa stratégie, chez soi d'homme, jusque dans la fatigue.
fatidique série de tirs au but. Il s'est planté Élysée de bout en bout, mais ce n'est que partie reprise car cette équipe anglaise est une très bonne formation, une formation très jeune qui peut valoir beaucoup de satisfaction aux Anglais Élysée.
Lawal, les Anglais devront encore attendre avant d'inscrire leur nom au palmarès de cette compétition. Et pourtant, ils avaient bien entamé la rencontre.
Oui, Élysée, ils avaient fort bien entamé la rencontre. Un but à la deuxième minute de jeu. Le coup de massue aurait pu venir, c'est pas arrivé. Les Italiens ont eu le temps de se remettre en confiance. Et puis, il y a eu quelques erreurs de coaching. Il faut également le signaler. Mais on comprend que c'est la malédiction du pays hôte qui continue à l'Euro. Souvenez-vous, en 2004, la Grèce qui remporte le trophée face au Portugal, pays organisateur. 2016, la France qui laisse le trophée au Portugal. Aujourd'hui, les Anglais le laissent aux Italiens. Il faut dire que Donnarumma a été impérial hier en repoussant deux tentatives et il fallait donc le faire. Et les deux gardiens sont véritablement à féliciter pour cette prestation inouïe qu'ils ont pu offrir aux spectateurs, aux téléspectateurs.
Également de la Copa América avec le sacre de l'Argentine dans le Mitid Sad de Maracana. Succès 1-0 face au Brésil, un but d'Angel Di Maria et Amine. Lionel Messi remporte enfin un trophée avec l'Albi Céleste.
C'est la fin d'une malédiction pour Lionel Messi qui n'avait jamais rien gagné avec la sélection argentine A. En effet, les deux seuls titres qu'il avait gagnés avec son pays étaient la Coupe du Monde Junior en 2005 et le titre olympique en 2008 avec les U23. Là, il a su accompagner et surtout guider cette équipe argentine tout au long du tournoi, notamment lors de la finale, où un but d'Angel Di Maria aura suffi au bonheur des albicélestes qui n'avaient plus remporté la Copa América depuis 1993. C'est un gros fiasco pour le Brésil et surtout pour sa star Neymar. C'est une consécration pour l'Argentine qui est en train de bâtir petit à petit une sélection compétitive en prévision de la prochaine Coupe du Monde. Ce sera certainement la dernière occasion pour Lionel Messi de rentrer définitivement dans le cœur de ses compatriotes qui ne jure que par le nom de Diego Maradona, qui avait su porter l'Argentine sur ses épaules vers le sacre de 1986 à Mexico, la dernière Coupe du Monde d'une Argentine dans l'attente d'une nouvelle consécration mondiale.
Amédine, si cette finale ne restera pas dans les mémoires collectives pour la qualité du jeu, l'essentiel était ailleurs pour l'Argentine, vainqueur d'un premier trophée international depuis la Copa América de 1993.
Tout à fait, Élysée. Comme vous l'avez dit, l'essentiel était ailleurs pour l'Argentine de Messi qui a enfin gagné un trophée avec son pays. Il faut dire, Élysée, que l'attente a été très longue pour la Pulga car il a fallu attendre 5 finales pour voir enfin Messi soulever un trophée majeur avec son pays après les 4 finales perdues avec l'Albi Céleste Mondial 2014, Copa América en 2007, 2015 et 2016. Donc cette année a été la bonne pour le maestro du FC Barcelone. Et comme on le dit, un bonheur n'arrive jamais seul. Messi a été le meilleur buteur de cette compétition avec 4 réalisations. Et il est également le meilleur passeur avec 5 passes décisives, Élysée. Donc, comme le dit l'adage, à force d'attendre, on finit d'avoir ce qu'on veut, Élysée.
Albert, Paris gagné pour Scaloni qui a remplacé Sampaoli après le fiasco du mondial russe. Il permet à l'Argentine de remporter son 15e sacre dans cette compétition et rejoint ainsi l'Uruguay palmarès après 28 ans sans titre majeur.
Oui, Scaloni permet à l'Argentine de faire un très bon tournoi. Scaloni a surtout conduit une équipe qui finit invaincue dans cette Copa América. L'Argentine élimine la Colombie en demi-finale et bat le Brésil, preuve du bilan très positif de cette participation argentine avec ce titre. Et en bonus, après 3 échecs en finale, 2 fois en Copa América et une finale de Coupe du Monde perdue, enfin l'Argentine retrouve le sourire et remporte un nouveau titre continental à la grande joie de Lionel Messi qui avait vraiment envie de soulever un trophée majeur avec sa sélection, c'est désormais fait.
Lawal, ce qu'on craignait arriva. Le Brésil, pas trop convaincant dans le jeu, perd sa coupe au profit de l'Argentine.
Oui, ça devrait arriver parce que, rappelez-vous, au cours d'une émission, j'ai dit que le Brésil a commencé sa Copa de façon poussive. C'était pas le Brésil qu'on connaît. Voilà. Avec ce football champagne, le Brésil est complètement sorti donc de cette Copa. Et il fallait, ce serait donc une injustice faite au football lui-même que le Brésil gagne ce trophée. Heureusement, ils l'ont pas gagné et ça a permis à Messi aujourd'hui donc de remporter un trophée avec la sélection. Et rappelez-vous, on a senti qu'il y a un collectif argentin qui opérait sur le terrain, un collectif porté donc par Messi et tous les autres. Donc on jouait plus exclusivement pour Messi, mais Messi participait au jeu, wow, jouait également pour les autres. Et c'est ça qui fait la qualité donc de l'Argentine.
La collectivité a plus primé. Oui. Ce qui a rendu encore plus belle cette consécration, c'est de l'avoir remporté au Brésil.
L'avoir remporté au Brésil, c'était ça le plus important. Et rappelez-vous, en 2014, les Argentins ont raté de près la Coupe du Monde au Brésil. Et cette fois-ci, ils ont pris leur revanche sur l'histoire. Et ironie du calendrier, en juillet 2016, Cristiano Ronaldo remportait son premier trophée avec le Portugal. Juillet 2021, et Messi remporte également son premier trophée majeur. Donc, les deux.
Il ne se laisse presque pas.
Les deux sont simplement les meilleurs joueurs du monde. Et puis, ils se talonnent en tout. Sacré coup pour les footballeurs à travers le monde.
La saison tire également à sa fin en Afrique et en attendant la finale de la Ligue des Champions, on connaît le vainqueur de la Coupe de la Confédération. Et c'est le Raja de Casablanca qui remporte le trophée à Cotonou au stade Mathieu Kérékou en battant la Jeunesse Sportive de Kabylie 2-1. Une finale pliée pour les Marocains dès les premières minutes avec déjà deux buts inscrits par Sofiane Raimi et Ben Malango. Mohamed Zakaria Boulaya a réduit en temps le score pour les Algériens. Satisfaction pour l'entraîneur tunisien du Raja, Lassad Charbi, qui vient de remporter un deuxième titre de sa carrière après la Coupe de Tunisie avec l'US Monastir.
Le premier mi-temps, on a eu deux, trois chances, on a marqué les deux buts. Mais la deuxième mi-temps, on a encaissé un but et on a eu le carton rouge. Et depuis ce temps-là, le GSK a dominé le jeu. Ils ont des joueurs extraordinaires. On a joué contre une grande équipe avec un grand entraîneur.
La satisfaction du Raja qui contraste évidemment avec la déception de la JSK. Les Algériens vont regretter longtemps leur début de match manqué et pour Denis Lavahi, il leur a manqué un peu de technique pour profiter de l'avantage numérique en deuxième mi-temps. On écoute le technicien français du club de Tizi Ouzou.
On est arrivé très tôt à le marquer, malgré la supériorité numérique, on a manqué de maîtrise technique pour mieux profiter de cette supériorité, se créer plus d'occasions. On en a eu, mais pas assez. Mais bon, mentalement, les joueurs sont à féliciter parce que bon, prendre deux buts dans le premier quart d'heure et pas s'écrouler, ils ont montré encore qu'ils avaient une force de caractère impressionnante et donc c'est bien, c'est des jeunes, ils apprennent. Mais comme je leur ai dit, on ne perd jamais, on apprend. J'avais dit aux joueurs que les finales, ça se joue sur la maîtrise des émotions, surtout au départ. Et bon, malheureusement, on n'a pas su faire ce qu'il fallait au départ.
Amine, les Verts sauvent leur saison en s'offrant cette coupe.
Je dirais plutôt qu'ils lancent leur saison dans la mesure où ils ont encore un trophée à aller gagner. Il s'agit de la Coupe arabe des clubs champions, édition 2020. Ils disputeront la finale à Rabat contre les Saoudiens de l'Etihad. En attendant, le Raja a gagné au métier. Il a eu une première mise en route assez facile face à une défense algérienne poreuse. Deux buts dans le premier quart d'heure ont permis au Raja d'avoir un matelas assez confortable. Il y a eu bien sûr la réaction de la formation algérienne avec ce but d'entrée de deuxième mi-temps, l'expulsion de l'Arjoun qui a compliqué les choses et quelques ratés, notamment de la part de Ngoma de reprise. Le Raja aurait pu même d'ailleurs l'emporter plus largement. Il a fini par trembler et dégager les ballons loin de sa surface de réparation face à une équipe algérienne qui n'a nullement fermé le jeu. Il s'agit de la troisième Coupe de la CAF remportée par le Raja, de son huitième trophée africain, Champions League et Super Coupe d'Afrique comprises. Le Raja est aujourd'hui un géant du football africain, le meilleur représentant du Maroc sur le continent. Et évidemment, les victoires et les trophées appellent les victoires et les trophées.
Amédine, grande déception par contre pour les Algériens qui ont mal entamé cette rencontre.
Tout à fait, Élisée, la Jeunesse Sportive de Kabylie ne remportera pas encore son septième titre africain après sa défaite face aux Marocains du Raja de Casablanca en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Vous l'avez dit, Élisée, les Algériens ont raté complètement leur début de match en encaissant 2 buts à la 5e et à la 14e minute. Ils ont certes réduit le score à la 46e minute, mais le mal était déjà fait car le Raja a profité des errements de la défense à 3 des Algériens pour prendre une avance considérable de 2 buts. Le club de Tizouzou avait la possibilité de revenir au score, mais ils n'ont pas su profiter de la supériorité numérique après l'expulsion d'un joueur marocain. Pourtant, ils ont joué à 11 contre 10 pendant la dernière demi-heure, mais il faut dire qu'ils n'ont pas su profiter malgré les occasions qui se sont créées. Il faut dire que c'est vraiment dommage pour les Algériens qui ont fait un très bon parcours, mais c'est comme ça. Il faut tirer les leçons de cet échec pour pouvoir revenir très fort l'année prochaine. Élisée.
On revient vers vous, Albert. C'est un pari gagné pour le Bénin.
Tout était beau pour cette finale de la Coupe de la Confédération. La très belle victoire du Raja. Deux belles équipes en finale pour ce match-là. Et surtout, cette grande première pour le football béninois. Une grande première depuis les indépendances. Le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou a jamais parmi les tout premiers stades à accueillir une finale de compétition de club sur un match. Le pari n'est plus que gagné. Tout a été quasiment parfait. Belle pelouse, éclairage au top, la logistique, l'organisation. Les délégations ont toutes témoigné de cette très belle organisation du Bénin. Le pari est vraiment réussi. Chacun y a mis du sien et aujourd'hui le Bénin peut se targuer d'avoir un stade aux normes continentales et de pouvoir accueillir, pourquoi pas d'ici là, quelques événements de très grande envergure.
Lawal, une organisation qui a vu la présence des membres du comité exécutif de la CAF changera forcément des choses dans ce pays, notamment le prochain championnat professionnel.
Oui, Élisée, réussir la finale d'une compétition majeure des clubs en Afrique ne veut pas dire que de facto tout pourra changer pour le foot béninois.
Mais le gouvernement est dans cette perspective.
Oui, la perspective, elle est belle, mais les réformes sont mal engagées. C'est vrai qu'on a commencé par avoir des sociétés qui soutiennent les clubs et tout le reste. C'est déjà heureux. Mais la formule du championnat, c'est ça qui pose problème. On a fait un savant mélange, un mélange hétérogène de clubs de première division, de deuxième division pour aller dans l'élite. Ça se conçoit pas. Ça se conçoit pas. Et il faudra qu'on revoie peut-être cette formule-là et qu'on mette chacun à sa place. Parce que quand vous regardez un peu, après donc le championnat professionnel, la Super Ligue professionnelle, on constate que les clubs qui ont l'ADN de la première division ont surplanté les autres qui sont venus de la deuxième division et qui ont été donc cooptés pour la première division. Donc il faut qu'on revoie cette formule-là. Et à partir de là, repenser la politique du développement du foot béninois et ça pourrait aller. Maintenant, quand on prend ce qui s'est passé au stade général Mathieu Kérékou samedi dernier et quand on prend un peu les installations techniques et tout ce qui a été fait, on pourra dire que les Béninois sont sur le bon chemin, mais il faudra faire encore assez d'efforts pour que ce football-là se développe comme on aurait aimé voir le football béninois se développer.
Voilà qui est clair. Et samedi prochain, ce sera donc la fin de la saison en Afrique avec la finale de la Ligue des Champions entre les Égyptiens d'Al Ahly et les Sud-Africains de Kaizer Chiefs. Ce sera au stade Mohamed V de Rabat. Il faut dire à quelques jours de cette finale jouée à Cotonou, Anthony Bafoué, le secrétaire général adjoint de la CAF, a démissionné de son poste. Il a pris cette décision à l'issue d'une réunion en vidéoconférence avec désormais ses ex-collaborateurs, nommés en 2017. Le Ghanéen aura passé 4 ans au secrétariat général en charge du football et du développement. Alors Albert, la goutte d'eau a finalement débordé le vase.
Bon, le départ d'Anthony Bafoué, moi je vois plutôt le verre à moitié plein, pas forcément à moitié vide. Pour moi, il n'y a pas tout de suite une crise. C'était un peu logique. On sait que la hiérarchie, on sait que la présidence a changé au niveau de la CAF et toute nouvelle présidence qui arrive, arrive par moment avec aussi de nouvelles têtes. Donc, Patrice Motsepe est venu pour faire une sorte de rupture avec la gestion qui existait à la CAF. Et donc, c'est un peu logique que certaines personnes assez fortes du système précédent soient démises de leurs fonctions ou soient contraints à la démission. C'est le cas d'Anthony Bafoué. Il a servi de grands, il a rendu de grands services au football africain. Je crois que le temps est venu pour lui de partir. Il a compris les choses. Et il a anticipé en démissionnant. Bon vent à lui.
Justement, Amine, cette démission pourrait trouver ses raisons dans la gestion qui est faite du nouveau comité exécutif de la CAF.
Il s'agit d'une nouvelle défection ou démission au sein de la Confédération africaine de football. Depuis l'arrivée de Patrice Motsepe, il y a un travail de restructuration entre guillemets qui est fait avec de nombreux collaborateurs de l'ancien président qui sont en train d'être démissionnés ou de quitter volontairement leurs fonctions. Le dernier en date, c'est bien sûr le secrétaire général adjoint Anthony Bafoué, qui devrait être remplacé dans les prochaines semaines par Patrick Mboma. Quoi qu'il arrive, Anthony Bafoué aura laissé son empreinte. C'est le premier secrétaire général adjoint chargé de l'organisation sportive. Son métier, le fait qu'il ait une carrière en Allemagne, sa connaissance des dossiers lui a permis de s'attirer de nombreuses sympathies. Souhaitons juste que ces multiples rebondissements au sein de l'administration de la CAF puisse cesser. La CAF a besoin de sérénité pour pouvoir davantage se développer. J'espère tout simplement que le président saura bien s'entourer et que ses nouveaux collaborateurs seront beaucoup plus efficients que ceux de l'ancien président Ahmed Ahmed.
Ahmedine, un coup dur pour la nouvelle équipe de la CAF qui pourtant comptait sur lui, bien que nommé par l'ancien président Ahmad Ahmad.
Oui, Élisée, car l'ancien international ghanéen qui avait en charge le développement du football depuis 2017 faisait partie des chevilles ouvrières de la Confédération africaine de football, mais il vient de quitter le navire dans des conditions qu'on n'arrive toujours pas à expliquer. Mais selon ses proches, les raisons de cette démission pourraient trouver leur fondement dans l'ambiance délétère qui régnerait au niveau de la Confédération africaine de football depuis l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante. Je signale, Élisée, que Anthony Bafoué est le premier footballeur à occuper un poste de direction aussi élevé. Donc son départ est vraiment un coup dur pour cette nouvelle équipe dirigeante dirigée par Patrick Motsepe. Élisée.
Lawal, rien de surprenant. Si on se réfère un peu au fonctionnement de l'administration de la CAF, gérée par Véron Mossengo, qui a même licencié certains collaborateurs abusivement.
Oui, Élisée, il fallait des têtes fortes comme Anthony Bafoué pour crier leur ras-le-bol. C'est arrivé, maintenant il faudra qu'il monte au créneau pour expliquer à tout le monde ce qui ne va pas, ce qui l'a poussé à la démission, parce qu'il supportait peut-être plus ce qui se passe, les approximations de l'équipe dirigeante au niveau administratif. Même après l'élection du nouveau président ou la nomination du nouveau président de la CAF, il fallait donc qu'il prenne ses marques, qu'il reste fidèle peut-être à ses options. C'est ce qu'il a tenté de faire. Il voulait peut-être aussi montrer sa fidélité à celui qui l'a nommé. Rappelez-vous, c'est Ahmad Ahmad qui l'a propulsé secrétaire général de la CAF. Aujourd'hui, s'il rend les amarres avec l'équipe de Patrice Motsepe, c'est tout à fait normal qu'il le fasse. Mais les raisons, on pourra pas susurrer des raisons. Il faudra qu'il explique lui-même ce qu'il a poussé à démissionner. Mais c'est déjà un pas que l'on constate que des gens au sein du comité exécutif de la CAF prennent leurs responsabilités et disent non
surtout à cette mauvaise gestion.
Une mauvaise gestion qu'on connaît depuis lors, mais on fait un tri sélectif de ceux qu'on peut punir et les autres, on les punit pas, on laisse pourrir la situation.
En tout cas, on reviendra lundi prochain dans cette affaire de licenciement abusif. Sporama, c'est fini. Merci Lawal.
Élisée, c'est moi.
Merci aussi Albert Ogoudedji depuis Cotonou au Bénin, Amine Birouk à Casablanca au Maroc et puis Amédine Si du côté de Columbus dans l'Ohio. Tout de suite, une nouvelle édition du journal. Pour ma part, on se retrouve lundi prochain. Au revoir.